Il est 15h31. Bon vendredi, bon début de week-end. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Tantôt, on va revenir dans l'actualité. Je vous rappelle qu'aux environs de 17h, on va se brancher avec notre ami Richard Martineau. Hey, un gros merci à Émilie de la microbrasserie La Souche.
J'ai ma nouvelle bière préférée, puis elle est à 2,5% d'alcool.
C'est la Radler, hein, la Lille Monade. Ouais,
je ben suis brisé.
Bien des auditeurs et des auditrices qui la connaissent et qui l'adorent déjà. Pour nous, rejoindre le 418-971-1021 par texto, par téléphone, le 780-1021 par téléphone. Il y a quand même des incidents majeurs sur les routes dans la circulation. Audrey.
Si vous êtes sur la 20 direction est à la hauteur du kilomètre 303, la voie de droite qui est bloquée, c'est une sortie de route. Les services d'urgence qui sont sur place au moment où on se parle. Évidemment, c'est vendredi, donc depuis 14 heures, il y a déjà des gros ralentissements à prévoir un peu partout. Entre autres, sur la capitale, direction est, entre Henri IV et Laurentienne, ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne. L'entrée des ponts, ça commence à être difficile. Henri IV sud, à partir de Versant Nord jusqu'au pont La Porte, entre autres, c'est pas mal congestionné. Et la 20 direction ouest, c'est hauteur Chemin des Îles, dans les deux directions, hauteur Taniata. Autre chose, 418-971-102, texto.
Toujours le fun de se renseigner sur l'histoire de notre belle ville et depuis quelques semaines, on a le plaisir de jaser une fois de temps en temps les vendredis avec Misha Horswill, qui est géophysicienne et passionnée d'histoire de la ville de Québec, que vous pouvez suivre sur Instagram entre autres. Misha, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Là, je suis content parce qu'aujourd'hui, tu vas m'apprendre de quoi solide. Puis ces temps-ci, moi j'ai deux petits gars. J'ai un grand qui trippe sur le hockey et le plus jeune, il est passionné d'histoire. Puis on essaye de pogner toutes les capsules historiques qu'on est capable de ramasser sur Télé-Québec, YouTube et
bon
ailleurs.
Stock, hein?
Ouais, ben ouais. C'est quoi? C'est Québec, le nom de la série, je pense.
C'est avec un K, là?
K-E-B-E-C. Ouais. Comment, Arthur?
K-E-B-E-C.
Ben, exact. Arthur est en studio avec nous autres aujourd'hui. Quand j'ai dit à Arthur que tu allais venir nous raconter quelque chose aujourd'hui, il était bien, bien excité. C'est pour ça qu'il a mis ses écouteurs puis qu'il est bien attentif. On parle beaucoup d'itinérance par les temps qui courent à Québec. On parle de gens qui ont beaucoup de difficultés à arriver, à joindre les deux bouts. C'est pas la première fois de l'histoire de Québec qu'on assiste à ce genre de situation économique difficile-là. Et à une certaine époque, c'est ces plaines que les gens s'étaient installés carrément dans ce qu'on pourrait appeler un bidonville.
Oui, exact. La mémoire est une faculté qui oublie. Hein? Puis à chaque fois qu'on vit quelque chose de catastrophique dans la société, on pense que c'est nouveau. Et
c'est
non,
la première fois.
Souvent,
hein?
Ça se répète. Et même cette crise de l'itinérance-là était pire que celle... Ben, sans minimiser ce qu'on vit aujourd'hui, il y a des gens qui vivent la grande détresse, mais c'était encore pire. Et ça s'est passé sur les plaines d'Abraham. Je pense là, qu'à chaque fois que je viens ici, je pourrais parler des plaines d'Abraham.
Tellement mais c'est passé de choses!
C'est passé de choses!
Fait qu'il n'y a pas juste une bataille puis des festivals, non?
Non, il y a eu deux coupes cette année, puis j'aurais tellement ça voulu vous en, j'aurais voulu vous en parler aujourd'hui, parce que c'est comme le
moment
pour
parler. Que la coupe soit gagnée, puis on va être correct.
Mais, ouais, c'est
ça. Les Bulldogs de Québec jouaient sur les plaines.
Et oui, et ils avaient gagné deux fois, là, mais là, il aurait fallu que je fasse des recherches. J'avais pas le temps. Fait que Faubourg de la Misère. En fait, plein de noms. Il y a des gens qui font référence à ça. Le nom officiel, c'était Cove Fields.
Okay.
Ensuite, il y a eu Faubourg de la Misère, Punaiseville. C'est tout la même chose.
Là, on est à quelle époque, précisément?
On est tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé en 1945. Puis on se situe à peu près sur les plaines. Ben, pas à peu près, on se situe carrément là où il y a toutes les shows. Sur les plaines d'Abraham, le festival d'été, la Saint-Jean-Baptiste.
L'espèce d'amphithéâtre naturel, là, dans le creux, là?
Oui. Puis, en fait, c'est ça, jusqu'en haut de la butte, je vais y revenir plus tard. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont installés là? C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, effort de guerre du Canada, on a dit qu'on allait recevoir les prisonniers de guerre nazis. Donc, on est à côté de la citadelle, en arrière du manège militaire. Ça appartient à l'armée, ce secteur-là.
Ouais.
Donc, ils construisent des baraquements militaires pendant quelques années, de 40 à 45. Non, même pas, juste en 40. On reçoit là, non seulement des prisonniers de guerre nazis, mais aussi des réfugiés juifs
dans
la même bâtisse. Moi, ça me fait capoter.
Les deux à même place, mais pas
deux,
ensemble. Là, ils sont séparés.
Bien, là, je pense pas qu'ils étaient dans la même pièce.
On voulait être sûr qu'elle partait pogne, hein?
Je comprends pas comment c'est arrivé. En tout cas, il faudrait fouiller ça un peu plus, là. Puis cette info-là, je l'ai reçue du musée des plaines d'Abraham.
Et là, ces baraques-là, c'est vraiment sur le site des plaines où on a le festival d'été.
Exactement. Prochaine fois que vous regardez Muse, mettons, cet été, là, il y avait des prisonniers de guerre nazis là.
Wow.
Exactement. Ça n'a pas fait long feu parce qu'il y avait des graves enjeux de sécurité.
J'imagine.
On est en plein centre-ville de Québec. Oui. Imaginez-vous donc, moi, si j'apprends qu'il y a cela, je vais aller voir.
Ben
qu'il y avait des attroupements de curieux qui allaient voir. Apparemment que le long de la clôture, il y a des petits messages qui se partageaient. Il y avait des espions allemands à l'époque au Québec. Et puis, il y a même une histoire qui dit qu'il y a un prisonnier qui a réussi à s'échapper juste 24 heures. Il est revenu après. Il voulait aller faire un petit pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré.
C'est bien drôle, ça.
Fait comme quoi, la sécurité, c'était pas trop tenu serré. L'armée, en fait, ça n'a pas de bon sens d'avoir ça en plein centre-ville. Donc, ils sont partis. Les baraques sont restées inhabitées, comme abandonnées pendant un bout de temps.
OK. Les gens sont partis, les baraques sont restées.
Les baraques sont restées. Puis, pendant ce temps-là, il y a tout un tas de conditions, en lien notamment avec la guerre, mais le parc immobilier a arrêté d'être construit, a arrêté d'être entretenu, la population de la ville grossissait, donc crise du logement, exactement comme aujourd'hui, ce qui a mené à une crise de l'itinérance, mais à une ampleur telle que les gens, il y avait des campements illégaux qui se construisaient un peu partout,
ouais.
Le long du fleuve, le long de la rivière Saint-Charles, sauf que là, tu sais, même nous, en ce moment, aujourd'hui, on est un peu frappés de voir les gens qu'on voit dans la rue des visages, qu'on n'a pas l'habitude, des femmes, des gens plus âgés. Mais à l'époque, là, les familles, c'était du 10, 12 enfants.
C'est vrai, on est dans l'effort d'après-guerre, pratiquement.
Oui, ouais, donc c'était des enfants carrément qu'on voyait dans la rue. Et le maire de l'époque, Lucien Borne, se dit, bon, faut qu'on fasse quelque chose. On a justement ces baraques inhabitées-là. Il demande à l'armée, est-ce qu'on peut temporairement héberger des gens là? À prime abord, ça semble une bonne idée. Pourquoi pas? Donc, au plus haut, là, c'est 1200 personnes qu'on retrouvait dans ces baraques-là. Mmh. Sur 1200, on dit à peu près 750 à 800 que c'était des enfants. Donc, ça fait une dynamique quand même assez bizarre. Mais là, imaginez-vous comme... C'est des baraques militaires, là. C'est pas des grosses conditions.
Ils habitaient là gratuitement, sais-tu?
Non, il fallait qu'ils payent.
En plus?
Prix modique, mais il fallait qu'ils donnent un petit montant à la ville pour être hébergés dans des conditions carrément inhumaines. Donc là, c'est ça, on voulait héberger à la base des prisonniers nazis, donc ils se sont pas forcés sur le confort.
Et en plus, c'était un toit et des murs, j'imagine.
Ça a été à mon... Ouais, un toit et des murs, apparemment, que quand il pleuvait, c'est comme s'il pleuvait en dedans. Les murs, en fait, c'est même pas exactement des murs. Ça faisait 2 mètres de haut, donc aucune intimité. On voyait ce qui se passait de l'autre bord. Hey. La densité de gens qu'il y avait là-dedans, c'était fou raide. Des toilettes, il y avait une toilette par baraquement qui était composée de plein de familles, puis ça n'avait pas été entretenu.
Pour combien de monde?
1200.
C'est fou, là!
Puis ça remplissait même pas l'entièreté du site des plaines. Et moi, un fun fact, je sais pas si c'est intéressant pour la majorité des gens, mais moi, ça me fascine. Vous savez la dynamique Hauteville-Basseville qu'on retrouve à Québec, où les gens plus pauvres ont tendance à se retrouver en Basseville, plus aisés en Hauteville. C'est pas juste à Québec que ça marche comme ça. À peu près toutes les villes qui ont Hauteville-Basseville, c'est le même phénomène. Bien, sur les plaines, c'est exactement ça qui s'est passé avec un échantillon de 1200 personnes.
T'as un peu le haut de la butte, le bas de la butte?
C'est ça que tu parlais? Oui! Oh, ouais.
En haut de la butte, ce sont les personnes en situation d'itinérance, les mieux aisées avec les meilleures baraques qui se sont retrouvées là, puis
les pauvres
plus pauvres
aisés.
Des pauvres. Oui, c'est ça.
Ouais,
et ça, c'est documenté.
Ah, ouais.
Oui, parce qu'en fait, les dernières personnes là, qui ont vécu ça, qui étaient enfants, qui ont encore ce souvenir-là, sont décédées dernièrement. Donc, il y avait un gros travail qui a été fait de comme aller chercher toute l'info avant que ce monde-là, malheureusement, décède. Okay.
Combien de temps ça a duré, cette situation-là?
Ça a duré... Au début, Lucien Borne, lui, c'était comme une mesure d'urgence.
Ouais.
On fait ça temporairement parce que...
Il faut trouver une solution, on n'a pas le choix.
Ça évite d'éparpiller tout le monde partout, fait que ça permet un certain contrôle-ish. Là.
Ouais. Mais 6 ans plus tard, c'était rendu du permanent.
En 51?
En 51, exactement. Puis ça aurait continué si c'était pas de l'armée un jour qui a dit « Débarrassez-nous, on jette tout à terre. »
On reprend nos affaires.
C'est à nous, partez de là. Mais sinon...
Ouais, c'est long, 6 ans.
C'est très long,
c'est
6 ans.
C'est 4 saisons, là.
Puis, en fait, ce qui est intéressant dans les témoignages des enfants qu'on a eu dernièrement, là, de ceux qui avaient vécu là, eux, évidemment que c'est de la grosse misère, c'est des conditions humaines, mais il y avait comme un esprit de communauté qui s'était créé, puis c'était vraiment un bidonville, comme on peut s'imaginer, où des gens qui s'entraident entre eux, un esprit de communauté. Mais les gens autour, là, à côté, c'est Grande Allée. Hein.
Ben oui.
C'est les plus riches. Le phénomène du pas dans ma cour, bonjour, à 100 000 à l'heure, c'est pas pour rien que les termes Punaiseville, Faubourg de la Misère est apparu. C'était pas ça le vrai nom. C'est les gens autour qui chiolaient, puis qui étaient comme, mais tassez-nous ça de là.
T'es en train de dire que dans ce temps-là, on était pas prêt pour la mixité, là.
Non! <mon Dieu.
rire> Mais ces gens-là, quand on a défait les baraques, sont partis où? Sont retournés à Limoilou en bas? Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là qui étaient quand même plusieurs centaines?
Oui, j'ai pas la réponse exacte, mais apparemment que c'est documenté. Oui, c'est dans certains quartiers de la basse ville. Puis à cette époque-là, tranquillement pas vite, les quartiers qui n'avaient pas été entretenus pendant la guerre commençaient à être rénovés, mais il y avait encore des trucs
magané,
complètement
hein?
abandonnés.
Wow. J'ai vu des images d'archives il n'y a pas longtemps du quartier Limoilou, justement. Je pense que c'était dans les années 40 ou début des années 50. Puis il y avait des grands secteurs qui étaient laissés à l'abandon. Puis il y avait des gens qui s'étaient fait des camps. On parlera pas d'abris de fortune, mais des camps probablement qui ressemblaient aux baraques qu'il y avait sur les plaines, mais tu avais énormément de misère. Puis on n'intervenait pas. Je veux dire, une maison passait au feu, elle restait là, puis les gens essayaient de rabibocher ça pour essayer de se faire un campement temporaire qui devenait permanent parce que les gens vivaient dans misère solide.
Oui, exact. Puis il y a d'autres quartiers aussi, le Saint-Sauveur, je crois, même chose, mais c'est fascinant, triste et fascinant de voir qu'il y a, il y a moins de 100 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça. Nos grands-parents ont vécu ça, une ville de Québec où il y avait un niveau de misère là, vraiment très élevé.
Là, on a des images qui existent, que j'ai jamais vues, que Véro nous a trouvées sur le site
Laval.
De l'Université Laval. Okay. La vie quotidienne dans le faubourg de la misère. Je suis en train de regarder ça. Je sais pas si on peut peut-être partager le lien sur nos réseaux pour les gens qui s'intéressent. Mais mon Dieu Seigneur, ça frappe l'imaginaire. Puis on voit vraiment, je sais pas, ben Micha, t'as probablement vu ces images-là déjà, là. De voir les baraques qui sont installées carrément où on regarde des shows pendant le festival d'été, c'est particulier, là.
Puis quand je suis allée au musée des Plaines d'Abraham pour avoir de l'info, parce qu'il n'y a pas d'expo là-dessus, hein, sur, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'infos, fait que peut-être que ça viendra un jour, je le souhaite.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment comme je les ai rencontrés one-on-one, puis on m'a donné de l'info.
Wow.
Et moi, ce que je trouve très beau dans ces images-là, c'est les cordes à linge avec les vêtements. Moi, je trouve que ça a quelque chose de romantique. Je ne sais pas, ça fait Italie. On m'a dit non. Mais étaler ton linge comme ça,
c'était
à l'extérieur,
humiliant, j'imagine,
c'est... Ouais, c'est humiliant, puis c'était un symbole de pauvreté. Donc, de voir que sur toutes ces images-là, on voit comme...
Des cordes à linge.
Puis tu sais, il n'y a pas vraiment de mur, là, pour ceux qui n'auront pas l'image. C'est comme, c'est des planches de bois, c'est des baraques faites en bois. Donc, on s'imagine bien que l'eau rentrait, puis comme le monde qui ont leur linge.
L'hiver, étalé, le fun linge. Que ça devait être l'hiver. Incroyable.
Ah, mon Dieu, c'est plein. Ils vendent tout le temps.
C'est fou de penser qu'aujourd'hui, nous autres, c'est que du plaisir, c'est plein.
Ben, oui. Micha, merci, hein, puis continue de nous faire découvrir ces histoires-là, c'est fascinant. Micha Horswell, qui est géophysicienne, qui est passionnée d'histoire de la ville de Québec, que vous pouvez suivre sur Instagram ou à partage
Facebook,
ces capsules-là. Partout, hein, partout!
Ouais. YouTube, Astor.
En plus? Ouais, parle-moi de ça. 15h44, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.